Et notre invitée ce matin dans le 8-30, Nicole Tagan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du collectif de l'Étoile ferroviaire de Vennes. Tout d'abord, aujourd'hui, comment vous définiriez le ferroviaire? Alors, largement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus précisément dans les Alpes du Sud.
En fait, il y a une grande disparité dans le ferroviaire dans la région PACA, tout simplement parce que le littoral est nettement mieux desservi que les lignes des Alpes. Et donc, quand je dis les Alpes, c'est le 04 et le 05. Et donc, depuis maintenant plus de 5 ans, on est réduit à la portion congrue, c'est-à-dire 3 allers-retours dans chaque sens par jour entre Marseille et Briançon, ce qui est notoirement insuffisant et en particulier impossible d'arriver à Briançon le matin, donc impossible de prendre le train pour faire des activités sur Briançon, ce qui est bien dommage.
Le train aujourd'hui n'est pas un transport, j'allais dire, quotidien ou un transport de travail dans les Alpes du Sud, c'est ce que vous dites?
Malheureusement, malgré nos demandes répétées, aucune concertation concernant la mise en place des horaires. Le mieux qu'on a pu obtenir, que Région et SNCF, PACA appellent de la concertation, c'est une information concernant les horaires. Mais à aucun moment il y a eu de la concertation. Et donc, par exemple, en décembre, on a eu 2 changements majeurs. Le premier train au départ de Marseille pour monter dans les Alpes est passé de 8h44 à 7h40. Alors, tout simplement pour répondre à la demande entre Aix et Marseille, mais ça interdit de facto toute correspondance pour le prendre. Et l'heure de pointe, ça veut dire qu'on peut y aller ni avec vélo, ni avec bagage, ce qui est un vrai, vrai souci. Et en parallèle, en descente, le train qui arrivait à 9h à Gap, donc le premier qui descendait le matin, ben maintenant, il arrive à 9h40, ce qui fait que pour travailler à Gap, quand on habite dans le haut du département, eh ben c'est fini.
Aujourd'hui, est-ce que vous rejoignez certains appels de syndicats, notamment la CGT Cheminots, qui craint alors pas fermeture en tout cas des gares, mais en tout cas un service ferroviaire qui ne serait plus à la hauteur, notamment parce qu'il y a des postes qui sont mis en sursis. Pourtant, on se souvient qu'en octobre 2020, la SNCF avait annoncé repousser les projets de fermeture partielle de gares alpines.
Mais c'est clair, on a des intérêts communs, même si le collectif, ça n'est pas les syndicats. Nombre de syndicats sont partie prenante du collectif et c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'une gare qui ferme, c'est côté SNCF et donc employer des emplois en moins. Mais une gare qui ferme, c'est un service qui s'en va pour les usagers. C'est une gare où on peut plus acheter ses billets, où on peut plus avoir de renseignements, où on n'est plus encadré par rapport à la sécurité au moment de monter ou de descendre du train, où on peut pas être accompagné quand on est un petit peu âgé, qu'on a une valise à monter, tout ça, voilà. C'est tout un service qu'on perd. Donc, l'intérêt est complètement identique. Et des gares qui se désertifient, c'est des gares qui perdent leur sens, malgré le fait d'asséner jour après jour qu'il faut être connecté. Ben non, encore aujourd'hui, on n'est pas tous connectés. Et puis, dans les Hautes-Alpes, vous le savez très bien, les zones blanches, c'est pas quelque chose de très, très rare. Donc, c'est quand même difficile de dire à chacun d'avoir son guichet sous forme de téléphone mobile pour prendre son billet. C'est pas possible.
Pour être plus précise dans ma question, 16 postes sont menacés sur la ligne des Alpes aujourd'hui et on craint bien sûr des fermetures de guichets. La situation aujourd'hui, vous le disiez, il n'y a pas de concertation forcément avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais la situation aujourd'hui, quels guichets sont menacés dans les Alpes du Sud ?
Alors, en fait, c'est le double langage et c'est ce qui va pas du tout. C'est-à-dire que quand on écoute la région, ils ont rien supprimé, ils ont rien enlevé. Voilà. Sauf que quand, par exemple, une gare comme Gap, 40 000 habitants quand même, eh bien, à 4h30, le guichet est fermé. Donc, après 4h30, pour acheter un billet, un renseignement, un échange, etc., une réservation, ce que vous voulez, ben, c'est plus possible. Donc, quand on voit l'importance de la ville et les horaires extrêmement réduits, eh bien, effectivement, c'est compliqué. Moi, je vois la gare de Chorges où j'habite. Ils vont supprimer. Donc, il y aura toujours du personnel à la gare pour faire tout ce qui concerne la sécurité, faire rouler les trains. Mais du coup, ils n'auront pas la deuxième casquette qui permet de vendre les billets. C'est quand même un non-sens fabuleux. On reproche d'un côté au personnel SNCF de pas être assez polyvalent dans un esprit d'optimiser. Et puis là où ils sont polyvalents, ben on les empêche de le faire, ce qui va faire une situation mais complètement incompréhensible pour les usagers. Quand vous voyez quelqu'un sur le quai et qui vous dit non, je vous rends pas un billet, est-ce que vous imaginez la situation? C'est pas possible, ça.
Aujourd'hui, le collectif de l'étoile ferroviaire de Vennes s'est redirigé vers la défense un peu plus complète du ferroviaire. On se souvient que vous avez vu le jour parce que la ligne entre Vennes et Grenoble était menacée. Elle revient de loin, cette ligne. On se souvient qu'elle était dans un état de vétusté apparent, avancé. Finalement, il y a eu des investissements qui ont été menés. Aujourd'hui, elle n'est plus menacée, mais vous restez toutefois vigilant.
Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait ça. Elle est toujours menacée. Donc là, il y a activement des travaux qui sont en train de se produire en ce moment et on les publie régulièrement sur notre page Facebook. C'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur parce que c'est vraiment des travaux de grande importance qui étaient absolument nécessaires. 30 ans sans travaux, vous imaginez l'état de délabrement, que ce soit les traverses, les rails, les ouvrages d'art, que ce soit les ponts, les tunnels, etc. Mais, on est dans des travaux d'urgence et ceux qui impliquaient la fermeture, c'est rien n'avait été fait en décembre 2020. Donc là, décembre de cette année, la ligne réouvre et on est vraiment très content. On a une nouvelle menace qui pèse pour 2024, dans 2 ans. Et donc ces travaux ne sont pas encore finalisés au niveau du bouclage. Ça veut dire qu'il y a un vrai risque. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où des travaux sont prévus, il faut 2 ans en amont pour qu'il y ait le financement. Et une fois qu'il y a le financement, on sait que 2 ans plus tard, les travaux auront lieu. Donc on est extrêmement vigilant et pas encore rassuré tant que cette nouvelle série de travaux indispensables ne sera pas signée.
Expliquez-moi, 2024, il faudra absolument qu'il y ait des travaux qui soient menés.
On retombe exactement dans le même cas de décembre 2020, c'est-à-dire que si les travaux ne sont pas signés, on aura effectivement des points majeurs qui feraient que la ligne devrait être fermée pour raison de sécurité.
Mais quelle portion est aujourd'hui, j'allais dire,
alors, menacée ? C'est pas moi la technicienne dans le collectif, on est assez nombreux et chacun porte son petit morceau et la technique n'est pas le mien. Mais il y a encore des portions et notamment là la portion qui est traitée, elle est toute petite, elle est côté sud, elle est toute petite. Cette portion-là, il faudrait qu'elle soit plus importante. Regardez ce qui s'est fait sur ce qu'on appelle Livron-Aspre, donc celle qui a nécessité 9 mois de fermeture pour le train de nuit. Il y a eu plus de 30 kilomètres intégralement refaits. Là, on en est encore loin. Il y a quand même une centaine de kilomètres pour aller à Grenoble donc, et beaucoup d'ouvrages d'art. Donc, il y a du boulot. Ce qui est en train de se faire sur quelques kilomètres actuellement, c'est également à faire sur d'autres kilomètres à l'identique.
Ces travaux, on arrive à estimer le montant des investissements nécessaires ?
Alors, non, oui et non, parce que là encore, c'est une affaire de spécialistes. Et l'offre et la demande jouent aussi, malheureusement, il n'y a pas que les travaux en tant que tels, mais il y a le fait que ce soit des entreprises bien particulières qui puissent faire ces travaux et qui ont des cahiers de commandes à 2 ans. Donc certains contestent l'enveloppe des travaux, mais peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ces travaux soient programmés et soient faits.
Donc vous lancez un appel auprès de la région PACA et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'État aussi.
De toute façon, il faut. Mais c'est un contrat, celui qui a été signé en décembre 2019, qui a permis les travaux qui ont lieu. C'est un contrat qui est entre effectivement les régions, mais également l'État et pour une petite partie les départements. Donc c'est la raison pour laquelle c'est des contrats qui se signent, c'est des accords qui se signent en préfecture.
Alors vous avez aussi réagi cette semaine par rapport à l'augmentation des prix. Alors on avait parlé de l'augmentation des prix des billets, mais il y a une autre augmentation qui menace aujourd'hui.
Oui, en fait c'est la suppression des cartes, ce qu'on appelle la carte Zou 50-75, qui permet à minima d'avoir 50% sur le prix des trajets en train. Voire 75 si on prend des carnets de tickets à utiliser sur 4 mois. C'est ça qui est supprimé et également le bénéfice de la carte avantage qui est nationale. Et donc c'est un faux calcul que fait la région parce que la région est en train de faire des calculs d'apothicaire pour dire bah si on supprime les avantages de ceux qui ont la carte Zou, alors ils vont payer plein de tarifs, ce qui est totalement faux, et à la place ils font des tarifs sociaux qui ne sont pas mieux que ceux que n'importe qui peut obtenir avec la carte Zou. Ce que n'a pas compris la région, c'est que quand il y a X voyageurs dans un train, quel que soit le tarif qu'ils paient, c'est pas en leur faisant payer plus cher qu'on va remplir le train, c'est au contraire en ajoutant des personnes avec des tarifs réduits, voire en gratuité, parce que il vaut mieux faire rouler un train avec 100 personnes à 1 euro qu'une seule personne à 100 euros, c'est évident. Donc au niveau de la rentrée d'argent, c'est la même, mais par contre au niveau transition et report modal pour lutter contre le réchauffement climatique, on est bien meilleur avec 100 personnes dans un train qu'avec une seule. Et là encore, réduction des gares, réduction personnelle, réduction de l'offre tarifaire. Effectivement, on décourage les gens de prendre le train et on est totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire actuellement, c'est-à-dire inciter le plus grand nombre à prendre le train en apportant des services performants, mais également un tarif attractif. Vous le savez comme moi, le carburant augmente, il faut absolument proposer aux habitants, et en particulier des départements éloignés, une offre de transport, une offre de mobilité qui soit intéressante. Marseille-Briançon, 49,10 €. Même en voiture tout seul, ça coûte moins cher, et ça, c'est absolument inacceptable. Un transport en commun devrait toujours être moins cher que la voiture individuelle.
Cette ouverture à la concurrence qui a été lancée en 2016 par Christian Estrosi, poursuivie aujourd'hui par Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous la voyez d'un bon œil ?
Alors ça, c'est pas une question qui va rallier l'ensemble du collectif, parce qu'en fonction de la disposition où on se trouve, on n'aura pas la même opinion. Moi, ce que je peux dire d'un point de vue général, c'est que c'est pas la privatisation qui va apporter une solution, c'est impossible. C'est le cahier des charges, c'est-à-dire que si vous demandez un produit bas de gamme, c'est exactement pareil que pour le prix des t-shirts. Vous voulez un t-shirt à 1 €, ben ma foi, vous aurez un t-shirt à 1 € qui se déforme, qui se découpe, avec des conditions de travail pour le fabriquer, avec des enfants au Bangladesh qui bossent 12 heures par jour, voilà ce que vous aurez. Le train, c'est exactement pareil, c'est une question de cahier des charges. Si dans la balance, vous mettez effectivement les conditions de travail de ceux qui sont là pour fournir le service, eh bien, vous aurez un cahier des charges cohérent qui permettra d'avoir un service cohérent. Si vous êtes dans le low cost permanent, fatalement, vous aurez un résultat équivalent. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tout le monde se vante à la région. Hein, j'entends sur l'attribution à Transdev du Marseille-Nice. Ouais, très bien. Il parle de 800 millions sur 10 ans. Ah ben oui, ben sauf que c'est pas à coût constant. Donc là encore, pour avoir des chiffres, pour comparer ce qui est comparable, il faudrait savoir ce qui a été payé, pour qui et comment. Aujourd'hui, quand la région dit qu'elle dépense 600 millions d'euros par an pour les transports, on ne sait pas à quelle ligne c'est attribué, quelle est la part du train, quelle est la part du bus. Donc qu'est-ce que vous voulez comparer ? Pour comparer, il faut avoir des chiffres qui soient un peu précis par ligne et par service.
Merci beaucoup Nicole Tagan d'avoir été avec nous ce matin sur
Alpe 1.
Je rappelle
donc,
vous êtes membre du collectif de l'Étoile Ferroviaire de Vannes, un collectif qui se montre toujours vigilant, que ce soit pour la ligne des Alpes ou que ce soit encore pour l'amplitude horaire et les tarifs. Merci beaucoup.
Merci à vous.